Mademoiselle Midi, l'info d'ici.
Bonjour à tous. Eau potable dans le département, la consommation est stable malgré l'affluence touristique. Les mesures de restriction ont porté leurs fruits. Le 16 juillet dernier, le préfet Michel Prozic avait restreint les usages de l'eau face à une consommation trop importante pour un début de saison. Depuis un mois, elle s'est stabilisée. La préfecture a tout de même maintenu depuis ce mercredi la Charente-Maritime en alerte renforcée pour les usages de l'eau potable. Les mesures de restriction et les contrôles ont porté leurs fruits avec la stabilisation de la consommation. Emmanuel Caron, secrétaire général de la préfecture.
On a fait des contrôles majoritairement vers les ports de plaisance, puisqu'on y consomme aussi beaucoup d'eau potable, beaucoup d'eau douce pour nettoyer les bateaux, vers les golfs et les campings. On a noté une bonne appropriation des mesures par les exploitants. On n'a pas vu d'infraction. On a relevé une infraction sur quelqu'un qui nettoyait sa voiture avec le réseau d'eau. Donc effectivement, lui, il a été verbalisé. Et puis on a fait pas mal de remarques pour régulariser les forages qui avaient été mis en place ici et là dans les campings ou dans les golfs. Et les contrôles aussi permis de mettre en évidence cette absence de déclaration des petits fourrages, mais qui doivent donner lieu à déclaration des consommations.
Stabiliser la consommation a aussi permis de faire diminuer la pression sur les usines de production d'eau potable du département. Aujourd'hui, la production est importante mais soutenable. Jérôme Piton, le directeur adjoint d'Eau17, l'un des principaux producteurs d'eau potable dans le département.
Sans surprise, on est sur les deux premières semaines d'août. Pour nous, c'est des grosses semaines, on peut l'appeler comme ça, avec des productions importantes, avec des niveaux importants. Pour autant, donc tout le système industriel, notamment le système industriel de production d'eau potable, qui est orienté sur les îles et sur le réseau, sur toute la partie touristique, ou ce que nous on appelle le réseau littoral et le réseau qui concerne la CARA. L'outil industriel fonctionne en mode nominal, normalement. Mais on est en pleine capacité de sa production. Donc, on surveille les indicateurs chaque jour. Demain, on se refait une réunion pour faire un point, pour voir à quel niveau on est en niveau des mètres cubes produits. Et on est extrêmement vigilant, y compris ce week-end, sur notre capacité à produire de l'eau potable sans problème particulier et à alimenter tout le monde.
Au vu de l'absence de précipitations importantes dans les semaines à venir, il est très probable que les restrictions d'eau soient maintenues jusqu'à la fin du mois d'août. Et à Rochefort, c'est le réseau d'eau potable qui est en travaux, boulevard Aristide Briand. À partir du 17 août, les travaux de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement, doivent durer jusqu'à la fin novembre. Des travaux qui vont modifier la circulation jusqu'à la fin novembre. Et pour éviter une gêne trop importante, la mairie a divisé le chantier en trois phases. La première se débute lundi jusqu'au 28 août, entre le double rond-point et le numéro 40 en direction de la gare, le boulevard sera fermé à la circulation. La deuxième va durer 4 jours. À partir du 25 août, la rue du Breuil sera à sens unique en direction du rond-point. Et la troisième et dernière phase des travaux, et c'est la plus importante, va durer de la fin du mois d'août à la fin novembre. La circulation et le stationnement seront interdits entre la rue du Breuil, c'est-à-dire à partir du double rond-point, jusqu'à la rue du Commandant Lherminier. La collecte des ordures ménagères dans ce secteur sera assurée via des points de collecte volontaires. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de la ville de Rochefort. Sénatorial 2026, Corinne Imbert candidate à sa réélection pour les sénatoriales de septembre. On finit pas tout à fait encore notre tour d'horizon des candidats et candidates aux élections du 27 septembre prochain. Corinne Imbert conduit une liste qui brigue deux sièges au Sénat, le sien et celui de Daniel Laurent, également membre des Républicains et sénateurs qui ne se représentent pas. Sa liste à Corinne Imbert est composée de Loïc Girard, maire de Gémozac, Sylvie Marcilly, président du département, et Julien Moucheboeuf, le maire de Montguyon, ainsi que de Marjorie Dupé, première adjointe au maire de Saint-Sauveur-d'Aunis. La sénatrice s'est lancée avec enthousiasme dans cette nouvelle campagne, avec au cœur de son engagement l'accès aux soins. Corinne Imbert.
J'ai toujours le même enthousiasme à représenter les élus de la Charente-Maritime au Sénat, représenter l'ensemble des collectivités locales et continuer à travailler, en tout cas... sur un sujet sur lequel on a fait énormément confiance au Sénat, au sein de la majorité sénatoriale, à savoir sur les sujets d'accès aux soins. Mais mon engagement au Sénat, il ne se limite pas à ce seul sujet de l'accès aux soins, qui est un sujet évidemment très important pour nos concitoyens, puisque je siège également dans plusieurs groupes d'études thématiques, dont le groupe d'études agriculture, le groupe d'études vigne et vin, que préside encore pour quelques semaines Daniel Laurent et mon collègue sénateur, je travaille également, en tout cas je participe au groupe d'études mer et littoral, donc des sujets, que ce soit agricoles, viticoles et maritimes, qui sont les grandes caractéristiques du département de la Charente-Maritime. Donc voilà, donc j'ai encore le même enthousiasme pour représenter ce beau département au Sénat, à la Chambre haute.
Au-delà de sa réélection, la liste de Corinne Imbert cherche aussi à conserver le siège de Daniel Laurent chez les Républicains. Elle espère que Loïc Girard, le deuxième sur sa liste, puisse y être élu, Corinne Imbert.
Je fais tout pour que ce soit Loïc Girard qui est numéro 2 de la liste que je conduis, une liste de droite et de centre-droite, une liste d'union de la droite. Et je ferai tout pour que Loïc Girard soit élu sénateur demain. Il sera un excellent sénateur, il a une expérience d'élu remarquable. Il est à la fois maire de Gémozac depuis de nombreuses années, président de la communauté de communes et président du syndicat de la Voirie. Donc c'est un élu qui est reconnu pour ses compétences et pour son travail en Charente-Maritime. Et en tout cas, je formule le vœu qu'il soit élu sénateur le 27 septembre au soir.
Dans le département, il y a quatre têtes de liste déclarées. Michaël Vallée pour les socialistes, Pascal Markowski pour le Rassemblement national, Abdelawed Tatou pour la France insoumise et Corinne Imbert, bien sûr, pour les Républicains. Et une cinquième liste semble être en préparation du côté de Christophe Plassard, le député Horizon de Royan-Marraine-Oléron. Il se lancerait dans la course avec en ligne de mire le siège du sénateur Les Républicains, Daniel Laurent. Une candidature qui rebattrait les cartes avec désormais deux candidatures d'une liste de centre-droit. Midi 14 sur Demoiselle, bientôt 15, la suite de votre journal après la publicité.
Demoiselle Midi, l'info d'ici.
La suite de votre journal. À Saintes, les urgences changent d'entrée pour les patients adultes à partir de ce lundi 10h. Si vous vous rendez aux urgences adultes, il faudra passer par le parking public, puis suivre la nouvelle signalétique. Les patients seront désormais accueillis dans les nouveaux locaux des urgences, un nouveau bâtiment qui regroupe l'accueil, les locaux de l'équipe mobile de gériatrie, ainsi que les chambres de garde des médecins. Ce changement d'accès est effectif à partir de lundi 10h pour l'hôpital de Saintes. Et la suite de notre série de la semaine consacrée à la station SNSM de la Cotinière, une station qui fête ses 160 ans cette année. Une très longue histoire pour les sauveteurs en mer oléronais. Pierre-Antoine Collat, l'équipier pont et chargé de communication de la SNSM, au micro demoiselle d'Emmanuel Bidot.
En fait, en 1865, il y avait une grosse augmentation en fait, des naufrages, parce qu'on est encore essentiellement sur de la navigation côtière. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore de GPS, et donc pour les bateaux, les relevés leur permettent de mieux se positionner par rapport à la côte. Mais on sait que plus on s'approche des côtes, plus on va rencontrer du rocher ou des hauts fonds, etc. Et donc, du coup, il y a énormément de naufrages. Et donc, l'État décide en 1865 de... Il y avait déjà des choses un petit peu indépendantes, éparses, qui existaient depuis une quarantaine d'années. Et en 1865, l'État structure, en fait, des stations comme le bâtiment dans lequel on se trouve, qui est aujourd'hui le musée boutique. Mais il y a eu toute une série de bâtiments identiques sur toutes les côtes françaises. Et il y a une équipe à Oléron donc, qui a pris ça en charge. Et donc le premier canot qui est arrivé après la construction du bâtiment en 1866.
160 ans après, tout a changé bien sûr en matière de sauvetage.
Bien sûr qu'en matière de moyens, en 1866, c'est des barques à rames avec deux voiles. Et on va... malheureusement se contenter la plupart du temps de récupérer les gens qui sont tombés à l'eau dans un naufrage tant que bien et voilà, alors que maintenant on est sur des bateaux, on va à plus de 80 km des côtes, on va beaucoup plus au large, on est vraiment un canot qui est fait pour le large, alors qu'en 1866 on reste vraiment sur du sauvetage à proximité de la côte oléronaise. Si les gens qui nous écoutent ont l'occasion de venir découvrir le musée, hein, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de panneaux avec des images d'époque. Le premier bateau, c'est le deuxième qu'on a eu ici, mais le premier bateau qui a été vraiment conçu pour le sauvetage, c'est le deuxième bateau qui est arrivé dans cette station une quinzaine d'années après le premier. En fait, les grandes innovations, c'est que le bateau pouvait se vider se pouvait vider lui-même sans que l'eau rentre dedans s'il se retournait. Donc déjà, c'était une grosse évolution par rapport à ce qui existait. Et puis, il y avait une deuxième évolution et qui aujourd'hui presque, est presque drôle, c'est qu'il y avait un anneau autour du bras de chaque sauveteur avec un bout qui était relié au banc. Et ce qui fait que si le bateau chavirait, le sauveteur restait accroché au bateau. Voilà, parce qu'à l'époque, il n'y en a aucun qui savait nager, bien évidemment. Donc voilà, et aujourd'hui, on est quand même avec des gilets de sauvetage haute technologie, on va loin au large, on a des moyens hydrauliques pour remonter, pour tracter, pour voilà, donc on n'est plus du tout dans le même monde, même si, par contre, je pense que l'état d'esprit des sauveteurs est toujours le même. C'est de dire, avec un risque calculé, pendant 160 ans, il y a des gens à la cotinière et autour de la cotinière qu'on donnait du temps pour ça.
Pierre-Antoine Collat, équipier pont et chargé de communication de la SNSM, au micro, demoiselle d'Emmanuel Bidot. Nous conclurons notre série de la semaine par les conseils de prudence en mer avant de sortir en mer. À la une de nos confrères du littoral cette semaine.
Le littoral, c'est chaque semaine des reportages sur la vie locale, sociale, économique, politique et culturelle de la Charente-Maritime. Annonces légales, sorties ciné et loisirs, votre journal vous informe au plus près de l'actualité. Le littoral, en vente chaque vendredi chez votre marchand de journaux. Chaque semaine, retrouvez dans votre hebdomadaire Le littoral de la Charente-Maritime toute l'actualité de notre région.
Rochefort, les Rochefortaises de l'UPAR, l'Union des patineurs artistiques de Rochefort, choisis pour représenter la France au World Skate Game au Paraguay en octobre. Un voyage qui a cependant un coût. La Tremblade, le combat de la mère de Luna. Amandine Giraud a perdu sa fille, Luna, âgée de 14 ans, dans un accident de la route en mai 2025. Depuis, elle se bat pour connaître les circonstances du drame. Ils doléreront face aux incivilités des routes bientôt interdites aux cyclistes. Les comportements dangereux se multiplient à nouveau cet été sur les routes oléronaises. Les élus aborderont le sujet à la rentrée.
Le littoral, c'est chaque semaine des reportages sur la vie locale, sociale, économique, politique et culturelle de la Charente-Maritime. Annonces légales, sorties ciné et loisirs, votre journal vous informe au plus près de l'actualité. Le littoral, en vente chaque vendredi chez votre marchand de journaux.
Et on termine ce journal avec vos idées de sortie de ce vendredi. C'est les quartiers d'été.
Demoiselles, les quartiers d'été.
En Pays Marraine, Oléron, à Saint-Denis d'Oléron, spectacle son et lumière, laser, suivi d'une soirée DJ set à 22h30 pour le spectacle et 23h pour le DJ set, place de la Boirie, à Saint-Denis d'Oléron. À Dolus d'Oléron, ciné plein air avec la projection du 5e volet de Toy Story, rendez-vous à 21h30 à la Caillitière, à Dolus. En Pays Rocheforté, à Port-des-Barques, c'est l'Happy Hour du Club de Voile avec le concert de La Bestiole, buvette et restauration sur place de 19h à 21h, place Nord, plage Nord de Port-des-Barques. À Foura, marché artisanal nocturne et concert après plage avec Twin Tiger et DJ Fred, ça se passe rue Carnot de 19h à 23h à Foura. En Pays Royanais, Royan, ciné transat avec la projection du film Les Maîtres du Temps, un film d'animation dessiné par Moebius. C'est à partir de 21h30 au Théâtre de Verdure dans le parc de Royan. À Méché-sur-Gironde, venez découvrir l'histoire de la commune avec la déambulation flânerie sur les rivages Michelet. Départ à 20h devant la mairie à Méché. Et en Pays Sainté, à Sainte, clôture du festival danse avec l'histoire avec le DJ Fédère aux arènes de Sainte. L'ouverture des portes à partir de 19h. Et à Bury, ciné plein air avec la projection du film The Blues Brothers. Karaoké, concours des meilleurs sièges pour regarder le film et restauration sur place. Début de la soirée à 19h. Début du film, 21h30.
La ferme de la Varenne, bien plus qu'un magasin, des aventures familiales et humaines. Depuis toujours, notre passion est de vous offrir le meilleur. Viande, volaille, fromage, légumes, fruits, pinot, rosé. Derrière chaque produit que vous trouverez dans nos rayons, il y a des femmes et des hommes engagés qui travaillent avec cœur tout au long de l'année pour sélectionner des produits de qualité. À la ferme de la Varenne à Tonnet-Charente, nous croyons qu'un bon produit naît du respect du travail, du savoir-faire et de l'attention portée à chaque étape. Retrouvez toute la fraîcheur et la saveur d'une bonne alimentation. Ouvert du mercredi au samedi, la ferme de la Varenne, c'est à Tonnet-Charente. Toutes les informations sur Facebook. Et pour plus de proximité, retrouvez également toutes ces saveurs à la ferme des 4 ânes à Rochefort. Pour votre santé, bougez plus.
Des nouvelles du ciel avec Météo de la Charente-Maritime. Pour des prévisions locales fiables sur notre département, rendez-vous sur la page Facebook Météo de la Charente-Maritime.
Alors Pierre, dernière journée de canicule, oui. Et ensuite on s'en sort.
Exactement, on s'en sort enfin. on va sortir de cet été extrêmement chaud. On le rappelle, en tous les cas, la Charente-Maritime est toujours en vigilance orange canicule jusqu'à demain matin, 6h. Si vous êtes du côté du littoral aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir respirer. Hein, du côté de Saint-Denis, d'Oléron et Arsonré, vous aurez 29 degrés, 32 si vous êtes à Étré ou du côté de Royan. Et là, plus on va dans les terres, plus il va faire chaud. Si vous nous écoutez à Lussan et à Trizé, vous aurez 35, 36 du côté de Pont, 39 à Sainte, jusqu'à 40 degrés encore aujourd'hui du côté de Muron ou encore du côté de Saint-Jean-d'Angély. Attention, si vous prenez la route ce soir, quelques orages sont attendus dans la nuit. Et puis le menu du week-end, de la grisaille et quelques gouttes pour demain et dimanche, un temps un petit peu plus ensoleillé. Et donc surtout, comme l'a dit Adrien, un mercure qui va redescendre et qui va revenir à la normale.
Il est peut-être temps de refaire votre intérieur. Peinture fanée, papier peint décollé, moquette tachée. Pour retrouver une maison à l'intérieur colorée et raffinée, pensez à AD Peinture. Pour tous travaux de peinture, effets de matière, revêtement de sol et mur, décoration personnalisée, AD Peinture vous conseillera. AD Peinture, c'est également l'extérieur de votre maison, de la toiture à la terrasse, ravalement, démoussage et traitement. AD Peinture se déplace sur tout le département. 06 33 37 10 84, études et devis gratuits. AD Peinture vous souhaite un bel été.
Merci d'avoir suivi cette édition. Retour de l'information locale.